La mairie de L'Île-Dieu, en partenariat avec différentes entités, organise du mercredi 3 au vendredi 5 novembre la première édition de la semaine du logement. 3 jours de rencontres, d'échanges et de tables rondes autour du logement et de l'immobilier sur L'Île-Dieu. Bruno Nourry, le maire de L'Île-Dieu, bonjour.
Bonjour.
Florence Guiton, chargée du projet, bonjour.
Bonjour.
Les principaux freins de l'habitat sur L'Île-Dieu sont le prix de vente des habitations et le coût de la construction. Avez-vous des marges de manœuvre pour stabiliser ou les faire baisser, Bruno Nourry?
Avant d'entrer dans un détail, je pense qu'il faut rappeler que la question du logement, en fait, elle est cruciale sur L'Île-Dieu. Nous, on en avait fait un axe phare, le principal axe de notre ligne politique pour les municipales. Et on a souhaité faire cette semaine du logement, enfin ces 3 jours de rencontres, pour amener des différents experts dans différents domaines et puis organiser des tables rondes autour de ces thématiques qui est complexe, qui revêt plusieurs volets. Pour répondre plus précisément à la question, on n'a pas forcément de réponse sur le coût en lui-même de la construction, quoique il peut y avoir des réflexions, mais nous on s'est attelé déjà par le passé à voir, puis on continue, hein, à avoir une maîtrise foncière, donc sur le coût du terrain à bâtir, donc ça c'est important.
Notamment pour les locations-accessions ?
Location-accession, mais aussi quand on fait... du locatif avec Vendée Habitat et puis de l'accession tout court à la propriété. Donc ça demande beaucoup de temps. Et en fait, c'est pourquoi on fait cette semaine du logement ? Parce que je crois que le constat est partagé par tous, c'est-à-dire que c'est de plus en plus compliqué de se loger sur l'île. En cela, on n'est pas non plus très différent d'autres territoires en France, notamment...
La problématique est égale sur toute la côte vendéenne.
Oui, et puis...
Pour rester dans le secteur.
Oui.
En Bretagne, c'est pareil.
En Bretagne, c'est pareil. C'est un peu partout pareil. Donc il faut qu'on invente des solutions, même si c'est pas le désert. Encore une fois, on a un certain nombre d'actions en cours. Mais je pense qu'au-delà du constat qui est partagé, il faut aussi qu'on partage les solutions, qu'on partage les enjeux, qu'on partage aussi les processus. Je pense que tout le monde n'a pas forcément conscience de temps que peuvent prendre certains projets. Un exemple, c'est quand on veut faire un lotissement, on est sur des surfaces assez grandes, il faut déjà acquérir l'ensemble des terrains. Quand on fait de l'acquisition pour du lotissement, c'est du terrain. Si on veut le vendre à un prix raisonnable pour faire de l'accession, donc le prix raisonnable, on l'affiche depuis longtemps, c'est 165 euros du mètre carré. Pour sortir des terrains à 165 euros du mètre carré, faut qu'on l'achète à peu près à 50 euros du mètre carré. Donc ça, les propriétaires de terrains, ils sont pas forcément enclins à les acheter. Ouais, mais bon, votre terrain, il est enclavé, etc. Et puis nous, quand on fait un lotissement, on va perdre de la surface sur les voiries, par exemple. Donc ça augmente le coût de revient du terrain qu'on va vendre parce qu'on va perdre de la surface vendable. Et puis après, il faut aussi payer l'ensemble des aménagements qui y sont faits, l'acheminement des réseaux, etc. Et donc entre la perte de surface et la réalisation, les coûts de réalisation, ça fait prendre au terrain à peu près 100 euros du mètre carré. Donc on y est à 165 euros.
165 euros le mètre carré, ça reste cher tout de même pour un jeune couple. Ouais, est-ce que vous êtes d'accord ?
Hier, je discutais avec des continentaux à Noirmoutier, ils sont plutôt à 400 euros du mètre carré. Donc voilà. Alors ça reste cher. Oui, j'aimerais bien finir sur mon aspect de lotissement, mais oui, ça reste cher. Voilà, quand on fait du terrain 300 mètres carrés à 165 euros, on est à peu près sur 50 000 euros. Maintenant, sur un projet de construction neuve, si on fait tout faire, on sait bien que c'est plutôt 300, 350 000 euros. Donc le prix du terrain, c'est pas le pire, j'ai envie de dire. Malheureusement, moi, j'ai pas de maîtrise sur ou moins de maîtrise sur le
prix des matériaux.
Donc voilà, ok, ça reste cher, il sera difficile de faire moins cher sur ce prix de terrain. Maintenant, sur un lotissement, comme je disais tout à l'heure, bon, faut quand même arriver à acquérir l'ensemble de la zone. Ça demande du temps, des négociations, etc. Ensuite, il faut qu'on se fasse assister pour réaliser le cahier des charges du bureau d'études qui fera le lotissement. Donc, il faut faire le cahier des charges, il faut le publier, le temps que l'entreprise réponde, qu'on dise ce sera un tel, que lui-même va faire derrière son cahier des charges pour la réalisation, donc pour prendre le bureau d'études qui fera la réalisation, il faut le temps aussi de faire les cahiers des charges, que les entreprises soumissionnent, qu'on attribue le chantier, et puis après que l'entreprise, le bureau d'études se mette en marche. Derrière, ça nécessite aussi après un certain nombre de réunions pour savoir quel type de parcelle on veut faire, combien de mètres carrés, combien de logements locatifs, combien en accession à la propriété. Réaliser tous les diag. Les diagnostics, pardon.
Merci.
Ça va de l'étude de sol à du diagnostic archéologique. On peut avoir diagnostic environnemental. Donc là, il faut couvrir toutes les saisons pour savoir s'il y a des choses intéressantes ou pas, etc. Donc bref, un ensemble d'études complémentaires à faire. Bon, ensuite, une fois qu'on est d'accord, Non, mais c'est important, je vais jusqu'au bout, parce qu'il faut que chacun comprenne bien ça. Ensuite, il faut, une fois qu'on est d'accord sur le découpage, déposer le permis d'aménager, lui qui va mettre 6 mois d'instruction. On va attendre le délai de recours pour purger les recours, 2 mois de plus, donc c'est 8 mois. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un appel d'offres pour la réalisation du lotissement. Donc, les voiries, l'assainissement, l'électricité, etc. Donc avec un certain nombre de lots, le temps de faire le cahier des charges, que les entreprises soumissionnent. Parfois, qu'on soit obligé de relancer, et à l'arrivée, attribuer les lots, puis la réalisation effective du chantier qui va prendre là encore quelques mois. Bref, entre le moment où on a les terrains,
c'est ce que j'allais vous poser comme question. Combien de temps ?
Le temps où on a les terrains et le moment où on peut commercialiser, parce qu'il faut que les réseaux soient réalisés pour commercialiser, c'est à peu près 4 ans. Donc c'est-à-dire que des lotissements qu'on est en train de sortir aujourd'hui, on n'est pas loin du dépôt de permis d'aménager pour la tonnelle et la chironnière, ça demandait du temps. Donc pour autant, il ne faut pas qu'on s'en contente, il faut qu'on anticipe le coup d'après. Donc là, on continue à faire des acquisitions foncières pour les futurs lotissements, pour éviter qu'on ait des trous d'air. Mais ça, il faut bien l'entendre, que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on réalise un lotissement. C'est des opérations qui sont complexes et qui demandent du temps et qui s'anticipent dans le temps.
Deux programmes de lotissement, vous nous l'avez dit, pour combien d'habitations ?
Sur la Chironnière, c'est à peu près une dizaine de lots. Et sur la Tonnelle, c'est un peu plus de 25 lots, peut-être, à peu près.
Ça fait 35 habitations, c'est peu.
Ah, ça règle pas tout, on est bien d'accord. Mais est-ce que la collectivité serait en mesure d'assurer le renouvellement des générations des îlets qui habitent à l'année? C'est encore un autre chantier. Maintenant, il y a quand même un marché privé avec des ventes, des constructions, des projets privés. Nous, on vient en complément, mais le complément permet de desserrer les taux. Oui, on peut dire que c'est peu maintenant, c'est beaucoup et c'est peu. Bon, parallèlement, on a un projet sur les Rieux à Saint-Sauveur, donc là, c'est du locatif. Il y a une dizaine de maisons qui vont sortir, ce sera du locatif. Ça, c'est en plus, on a 2-3 petites opérations aussi en cours. On est aussi sur le coup d'après, on continue d'acheter pour faire les futurs lotissements. Donc,
il y a du boulot. Ouais, est-ce qu'on peut résumer ça comme ça ?
Oui, ça demande du temps, de la technicité. Bref, il faut s'en occuper. Et je reviens sur ma question de constat. Ouais, c'est difficile de se loger. Que fait la mairie ? Ben, la mairie, elle bosse. Elle bosse, on fait ces vrais projets, mais ils demandent du temps. Et ça, il faut que chacun en ait bien conscience.
En vous écoutant parler, ça a l'air de vous énerver un petit peu.
Non, parce qu'il y a des choses qui ont été dites dans différentes élections, en disant oui, parfois, ouais, on ne fait rien sur le logement. Non, ce n'est pas vrai, je ne peux pas laisser dire ça, enfin. Et là, je suis un peu plus libre d'en parler. C'est lotissement, croyez bien, c'est long. Et quand on a sur une zone, mettons qu'il y a 15 terrains à acquérir, puis t'en acquéris 12, il t'en reste 3, et puis que qu'on n'arrive pas à les acquérir parce qu'il y a un propriétaire qui ne veut pas vendre ou qu'il y a un bien sans maître. C'est-à-dire que faut retrouver le propriétaire. Et là, ça demande 2-3 ans de procédure. Oui, c'est long. Et oui, il faut s'en occuper. Et croyez bien, c'est quelque chose qui occupe une bonne partie de mon temps.
La semaine du logement, c'est sur l'Île-Dieu du 3 au 5 novembre. On l'a bien compris, plein de problématiques à régler. Florence Guiton, qui sera présente sur l'Île-Dieu ?
Déjà, ce qu'on peut dire, Roland, c'est que la semaine du logement, elle ne réglera pas les problématiques. L'idée de la semaine du logement, en fait, c'est de lancer une dynamique de réflexion entre la municipalité et la population pour réfléchir effectivement à toute une batterie de solutions, mais qui, le 5 novembre, les solutions, elles seront pas toutes sur la table, réglées, et tout le monde n'aura pas un logement à l'Île-Dieu. En revanche, ce qui est important dans ce que disait monsieur le maire, d'abord, c'est de rendre les actions de la mairie lisibles par la population, parce qu'effectivement, il y a un tas d'actions qui sont faites par la municipalité, par la commune, et dont les administrés n'ont pas forcément conscience, en particulier cette histoire de logement, la constitution de réserves foncières, les biens sans maître, plus tout un tas de solutions peut-être alternatives. Est-ce que dans 50 ans, dans 30 ans, on habitera comme on habite aujourd'hui? Est-ce qu'on aura encore des terrains, notre terrain, avec notre maison dessus, avec ça, on ne sait pas. Les choses, elles sont en train de bouger. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça bouge sur la côte, ça bouge partout sur les territoires contraints, où effectivement, il faut réfléchir au logement autrement. Donc l'idée de cette semaine-là, c'est déjà de proposer un certain nombre d'animations autour du logement. Donc déjà au casino, tous les jours de 16h à 18h30, sera ouvert une expo dans laquelle il y aura, enfin une expo ou un forum, je sais pas trop comment appeler ça.
Stand d'information.
Des stands d'information, voilà. Il y aura le stand de la mairie où la mairie, très pédagogiquement, va expliquer toutes les actions qu'elle met en place de façon à ce que les administrés, les usagers comprennent.
Notamment, comme disait Bruno, les futurs lotissements.
Voilà, les futurs lotissements, comment on se positionne, quels seront les critères d'éligibilité pour ces lotissements. Même si tout n'est pas arrêté, même s'il y a encore des choses à préciser, on commence à aller quand même dans des directions plus précises. Donc il y aura le stand de la mairie, il y aura le PIJ aussi, le point info jeunesse, qui va faire un stand autour de l'habitat pour les jeunes. Il y a le conseil départemental qui sera là, qui va expliquer un petit peu toutes les mesures qu'eux ils mettent en place par rapport à l'habitat intergénérationnel, l'habitat kangourou, etc.
Il y a l'habitat kangourou, c'est quoi?
L'habitat kangourou,
oui.
Ben c'est quand on prend quelqu'un dans sa maison comme un kangourou dans sa poche, quoi. Quand on décide de dédier.
Par exemple, une personne qui a une chambre ou deux chambres, elle peut accueillir une ou deux personnes.
Voilà, ou faire.
C'est ce que vous appelez un habitat kangourou.
Alors pour bien savoir ce que c'est que l'habitat kangourou, il faudra venir à la table ronde numéro 1, puisque le département sera là et pourra l'expliquer.
La table ronde du 3 novembre, c'est bien ça?
Ouais, la table ronde du 3 novembre. Il y aura également le CAUE, le Conseil en urbanisme, en architecture et de l'environnement, donc de Vendée, qui sera là pour donner des conseils, pour expliquer. Alors, il y a la possibilité avec le CAUE de prendre rendez-vous, parce que comme l'expo, elle est ouverte que de 16h à 18h, on peut prendre rendez-vous avec Olivier Lapeyre, qui est le responsable. Je donne le numéro, non, Roland ou...
C'est à retrouver directement sur
NotreFM.com. Voilà, on retrouvera
sur le site de la mairie.
Ou sur le site de la mairie, ou sur les affiches. La CAPEB propose des rendez-vous pour les entreprises, les artisans, de manière à leur expliquer le système d'habilitation RGE. En fait, c'est un système pour avoir la possibilité, après, quand on fait des travaux chez soi, quand on peut avoir un artisan qui est labellisé RGE, on a des aides de l'État pour les travaux. Alors, ces aides de l'État, au niveau de l'Île-Dieu, elles passent par ce qu'on appelle le guichet unique. Donc, le guichet unique qui a des permanences régulières au pôle économique sera également présent cette semaine-là, le matin sur le marché, pour montrer des exemples de rénovation, de choses comme ça. Et l'après-midi, ils tiendront un stand également sur le forum. Il y aura également l'ADIL 85 qui peut donner des conseils en fiscalité, en choses comme ça. Voilà, en gros, les stands. Et puis, il y aura aussi les Enfants de Tempête. Les Enfants de Tempête, c'est une association qui s'est montée
dernièrement sur les lieux.
Voilà, au printemps. Un groupement, c'est un collectif de gens, en fait, qui prennent conscience que c'est vraiment important de s'occuper du logement, d'en parler autrement, de trouver d'autres solutions, de réfléchir avec les politiques. C'est en fait des citoyens qui se sentent investis par cette problématique du logement.
Solution pour eux, entre autres, c'est l'habitat réversible.
Ça peut être ça, c'est en grande réflexion. Faut aller tranquillement sur ces sujets-là. On réfléchit, tous les acteurs réfléchissent autour de ça. Il y a des réunions en mairie, il y a des spécialistes qui viennent. Les choses, elles vont se faire doucement, tranquillement. Il faut que chacun puisse intégrer ces solutions, les accepter, réfléchir autrement. Je crois que c'est le but de cette semaine du logement. C'est vraiment que les gens de notre territoire s'emparent de ce sujet-là.
L'habitat réversible est-elle compatible ou sera-t-elle compatible avec le PLU ?
Le PLU, c'est un ensemble de zones avec un ensemble de règles. Donc,
habitat réversible, on entend habitation en bois. C'est pour ça que je vous pose la question.
Le PLU ne réglemente pas le matériau de construction. Hein. Il y a déjà des maisons en bois sur l'île, hein, au Saturbois. Donc, après, sur ça. La compatibilité par rapport aux règles.
Au Saturbois, mais sauf que le bois n'est pas voyant. Donc, une fois.
Non, mais si tu essayes de me dire qu'on va faire loger des gens dans des cabanes, parce que c'est ce qui a été dit il y a quelques mois par d'autres, c'est pas l'objet. Maintenant.
Non, mais on entend l'habitat réversible, c'est pour ça que je vous pose la question. Non,
l'habitat réversible, c'est avant tout une prise de conscience d'une partie de nos concitoyens. Pour avoir un impact minimal sur le sol lorsqu'on construit. Donc ça, c'est pas incompatible avec le PLU. Après, sur cet habitat réversible, en fait, quand on délivre un permis de construire, il est à vitam aeternam, qu'il soit réversible ou pas. Après, il y a un certain nombre de règles. Quand on est sur une zone AAU, donc à urbaniser, s'il y a une partie où on dit oui, là on peut faire un système un peu plus collectif, parce que l'idée derrière sous-jacente, c'est que les gens ne soient pas propriétaires du terrain par choix. Alors il y a différents systèmes qui existent, et ce sera l'objet des tables rondes.
Notamment un bail à 99 ans, par exemple.
Ça, c'est bail emphytéotique, mais il y a les bails réels et solidaires qui sont un nouveau système qui permettent d'avoir une structure porteuse sur le terrain, donc on loue le terrain. Mais on est réellement propriétaire de la maison qui est dessus, on peut la transmettre, etc. Donc, quand tu disais tout à l'heure, le prix du terrain est cher, par rapport au coût de construction, il ne l'est pas forcément. Maintenant, ça peut aider à voir sortir des projets. Et donc, ce bail réel et solidaire, qu'on soit en habitat réversible ou pas, c'est des pistes qui convient d'explorer. Et je pense qu'on ira dans ces directions-là. Pour revenir à la question sur l'habitat réversible. Après, quand on fait un règlement d'une zone AAU, on peut adapter. Alors, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et je crois que là, c'est l'occasion d'en débattre tous ensemble, avec en ligne de mire, voilà, essayer de permettre à d'habiter moins cher, ça c'est important, tout en préservant voilà, une harmonie d'urbanisme. Donc, ça se discute parce que c'est des orientations sociétales et c'est pas le politique tout seul qui doit le porter. Donc ça se discute et ça fait l'objet de ces tables rondes. Je pense que c'est une affaire de tous, vraiment.
La semaine du logement, on rappelle les dates, c'est du 3 au 5 novembre. Il y a également 3 tables rondes, Florence Guiton. Avec quel invité ?
Ouais, alors,
quelle thématique ?
Les tables rondes, chaque table ronde conclura une journée. C'est-à-dire qu'il y en aura une le soir du 3, une le soir du 4 et une le soir du 5. De 18h30 à 20h. Donc, si vous voulez, pour monter ces tables rondes, on a essayé de réunir d'abord, de choisir 3 thèmes qui nous paraissaient importants. Et on a essayé de réunir aide certains de nos concitoyens, et évidemment les élus de la commune, et puis un peu des experts, entre guillemets, des gens qui peuvent nous apporter des idées,
des éclairages,
voilà. Et le principe de la table ronde, c'est que les gens vont être sur une petite estrade au casino, et le public pourra intervenir, poser des questions. Enfin, c'est quelque chose qui se veut
ludique,
voilà,
et pas interactif.
Interactif surtout, plus que ludique, mais c'est pas figé, quoi. C'est pas quatre personnes qui vont venir parler pendant que tout le monde écoute. Donc c'est pour ça qu'on invite vraiment la population à venir participer, à venir écouter. C'est vraiment le symbole de cette volonté de rendre cette politique autour du logement commune et de la faire partager à tout le monde. Donc la première table ronde aura lieu le 3 novembre sur le thème « Jusqu'où iront les prix du foncier ?»« Quelles solutions alternatives ?» Donc sur cette table ronde, on aura évidemment Monsieur le maire. On aura Valentin Josse, qui est conseiller départemental et qui est également président de l'établissement foncier de Vendée, Bruno.
Ouais, puis président aussi de Vendée Foncier Solidaire, donc qui peut porter les bails réels et solidaires que j'évoquais tout à l'heure.
Voilà, il y aura aussi Roxane Berger, qui fait partie de l'association Les Enfants de Tempête, qui viendra nous expliquer l'enquête qu'ils ont fait et comment ils réfléchissent, comment ils travaillent dans leur collectif. Et puis il y aura aussi un agent immobilier de l'île-lieu qui nous donnera un petit peu la tendance du marché, bien que...
Par rapport au prix du foncier.
Voilà. Donc ça, c'est la première table ronde, le 3 novembre de 18h30 à 20h. Ces trois tables rondes, elles seront animées par un journaliste en retraite, Monsieur Norito, Gaspard Norito, qui animait les tables rondes aux insulaires à l'époque où il y avait les insulaires. La table ronde numéro 2, qui aura lieu le 4 novembre, donc c'est quel équilibre entre le logement à l'année et le logement saisonnier. Donc on a beaucoup de logements saisonniers, on a peu de logements à l'année. Quel équilibre la collectivité peut trouver ?
Pas simple à régler non plus cette problématique.
Non, c'est pas simple.
Non, c'est une table ronde qui se veut vraiment participative, celle-ci. Alors sur celle-ci, on aura de nouveau Monsieur le maire, on aura Emmanuel Maillard qui est adjoint à l'économie. On aura Monsieur Decker qui est président d'Adéquat de Vendée, un syndicat de tourisme de Vendée, qui lui va nous expliquer en fait... Le classement saisonnier veut pas dire qu'il faut multiplier les classements. C'est monter en gamme, c'est pas forcément monter en quantité. Il y aura un monsieur qui loue à la saison. Il y aura aussi une personne de l'île-lieu qui loue à l'année, monsieur Pierre Semelin, qui fait des logements à l'année. Et il y aura également Alain Mousnier qui, lui, veut poser la problématique du logement saisonnier, comment on trouve des logements saisonniers. Et puis il y aura aussi un avocat qui s'est penché vraiment sur le problème de la fiscalité pour voir qu'est-ce qui est intéressant dans l'allocation fiscalement dans l'allocation à l'année et dans l'allocation, donc qui pourra répondre à des questions un petit peu plus techniques sur le sujet. L'idée vraiment de cette table ronde, ce serait d'arriver à créer un collectif de citoyens et de réfléchir avec les élus, avec les techniciens de la mairie, avec les élus, de réfléchir à mettre en place des mesures sur l'île-lieu pour justement trouver cet équilibre. Plutôt que ce soit la mairie qui mette en place des mesures coercitives que les citoyens comprendront pas forcément, qui seront essayer de vraiment réfléchir avec tout le monde.
Ouais, en sachant que pour corroborer un peu les propos de Florence, il y a de la complexité, c'est-à-dire que par rapport à la taille de la commune ou de son bassin de vie, tout n'est pas forcément possible. On entend des solutions qui se mettent en place ailleurs. Ah oui, mais c'est dans des aires urbaines de plus de 50 000 habitants ou c'est dans les secteurs reconnus tendus. Nous, on est juste un peu en dessous. Comment on contourne ça, etc. Et c'est pour ça que c'est important de partager, parce que on peut tous avoir une ou deux solutions en tête et qui finalement, techniquement, elles sont... C'est un peu plus complexe que ça, et donc c'est important d'échanger tous pour arriver à trouver les meilleurs compromis et surtout la meilleure façon d'avancer ensemble.
Le 5 novembre, dernière table ronde, Florence.
Alors la dernière table ronde, on a voulu faire une table ronde sur le logement sur les îles. Comment enrayer la pression immobilière ? Alors sur cette table ronde, comme invité, on a donc de nouveau notre maire. On a également Monsieur Bredin, qui est le directeur de l'association des îles du Ponant. On aura en visio les quatre maires de Belle-Île, Anaïque Huchette, qui est la maire de Bangor, Thibaut Gromulde, qui est le maire du Palais, Ronan Juel, qui est le maire de Sauzon, et Dominique Rousselot, qui est le maire de Locmaria. Voilà, donc eux, ils vont nous expliquer comment ça se passe sur leur communauté de communes, comment ils traitent ça ensemble. Et puis, on aura également Dominique Yvon, en présentiel cette fois, qui est le maire de Groix. Ce qui est intéressant, en fait, dans l'exemple de Groix, c'est que c'est la première île qui a son propre office foncier, quoi. Donc, l'expérience peut être intéressante. Il viendra sans doute avec son adjoint au logement, qui est administrateur, sur les établissements,
HLM
de Lorient.
Les problématiques, pour finir, des îles du Ponant sont les mêmes que sur les lieux, non? Ou ça dépend des îles?
Ça dépend des îles, c'est pas si simple. Quand on prend le cas de Groix est en interco avec Lorient, donc est dans l'aire urbaine de Lorient. Alors ça permet d'avoir certains types de solutions que j'évoquais tout à l'heure, suivant les tailles. Pour autant, ils vont être contraints d'avoir les mêmes solutions que sur le pays de Lorient. Mais ceci dit, le constat est le même partout, hein, sur les îles, sur la problématique logement. Je voyais il y a quelques temps dans la presse sur Belle-Île, il y a beaucoup de gens qui habitent dans des caravanes, parce que les caravanes peuvent passer sur Belle-Île.
Voilà, ce serait peut-être une solution pour les lieux, les caravanes?
Non, je ne crois pas. Enfin,
c'est pas la meilleure idée que tu aies eue.
Ouais. Non.
Une idée, c'était une question, ça.
Non, mais voilà, on a toujours essayé sur les lieux de limiter le nombre de caravanes qui sont acceptées sur le camping et c'est tout. Ça ne peut pas être un modèle de développement. Donc voilà, il faut qu'on règle nos questions foncières, nos questions d'habitat. Et puis les élus de Belle-Île sont dans cette même ligne. C'est satisfaisant pour personne d'avoir des gens à l'année dans des caravanes. Enfin, ils sont face à cette problématique. Donc ça va être intéressant de voir les différentes solutions, même si au sein de l'association des îles du Ponant, voilà, on échange entre nous. Hein, faire des baux amphithéotiques pour construire, bon, c'est des solutions, on avait avancé finalement. La loi a permis de faire ces baux réels et solidaires, voilà, qui sont, je trouve, une bonne solution, parce que le bailli amphithéotique, il y a toujours une incertitude sur le devenir de ce qu'il y a dessus. Le bailli réel et solidaire permet vraiment la transmission, c'est juste un partage financier sur le terrain. Donc, du reste, la dernière réunion des îles du Ponant, c'était les 50 ans de l'association, il y avait la présentation d'une étude autour de ces baux réels et solidaires. Donc voilà,
il y a tout de même des pistes de réflexion, oui, pour les lieux.
Oui, on n'est pas tout seul dans la barque. Hein. Il y a les autres îles, on échange beaucoup et on avance aussi ensemble. Donc c'est important de pouvoir le montrer. Et puis voilà, dans ces tables rondes autour des autres îles, il y a certainement d'autres pistes qui vont subvenir, qu'on n'aura pas forcément esquissé jusqu'à maintenant.
La semaine du logement, la première semaine du logement, construisons nos solutions, c'est sur l'île-Dieu. Du 3 au 5 novembre prochain, Bruno Nourry, maire de l'île-Dieu, un dernier ouf.
Oh, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, mais je voudrais en parler d'une. Le guichet unique de l'habitat, on a tenu à le mettre en place, ça c'était sous le mandat précédent, parce qu'on sait bien, c'est quand on veut rénover son habitat, que ce soit sur l'énergétique ou alors sur l'adaptation du logement quand on commence à vieillir, il y a beaucoup d'aides avec des organismes différents, entre départements, l'État, l'ANA, j'en passe et des meilleurs. Et donc,
c'est vrai que pour toutes ces aides, c'est pas simple de s'y retrouver.
C'est pas simple, donc on a souhaité faire ce guichet unique pour aider les gens à monter le dossier et à bien capter l'ensemble des aides. Et donc, ils seront présents là sur la semaine du logement, mais je voulais dire que quand on parle de logement, aussi d'améliorer énergétiquement les logements, ça aussi c'est important. Donc ça fait partie de cette problématique de logement, donc voilà, c'est... pour dire non, il n'y a pas rien de fait, il y a bien des choses qui se font. Et donc, ce guichet unique fait partie de cet ensemble de solutions.
Tous les habitants de l'île-Dieu peuvent faire appel au guichet unique.
Oui, oui. Alors, oui. Par exemple, dans ces réflexes qu'on peut avoir autour du guichet unique, nous, aujourd'hui, sur des réhabilitations énergétiques, bon, on met une petite carotte aussi, qui n'est pas élevée. Hein,
c'est, 200 euros ?
Oui, 250, je crois. Alors, ça dépend des travaux. Si c'est vraiment un truc complet, ça va au-delà. Mais avec cet outil du guichet unique, on peut aussi adapter. C'est-à-dire que plus on oriente sur de l'habitat à l'année, est-ce qu'on met une plus grosse carotte, etc. Enfin, voilà, c'est des réflexions qu'il faut qu'on mène tous ensemble et pas seulement au niveau politique, enfin des élus. Ça, c'est bien une affaire de territoire. Donc, c'est important qu'on puisse échanger là-dessus. Encore une fois, le logement au sens large, c'est un ensemble de solutions qui convient d'échanger et puis qu'on ait tous le même niveau de compréhension des enjeux, des problématiques techniques pour qu'on avance ensemble. Ça, c'est important. Donc, c'était tout l'objet de cette semaine du logement.
Florence Guiton, chargée du projet.
Oui, j'ai oublié de donner un élément qui est quand même intéressant. C'est que, justement, le guichet unique, il va organise pendant cette semaine du logement des visites chez l'habitant. En fait, il s'agit de 3 visites. Alors, c'est des personnes de l'île-Dieu, hein, qui sont installées à l'île-Dieu, qui ont rénové leur logement avec le guichet unique. Donc, c'est des visites qui auront lieu de 13h30 à 14h30. Si vous êtes intéressé, il faut prendre rendez-vous auprès de Karen au relais emploi. Vous aurez le numéro de téléphone sur les sites et puis sur les affiches. Et donc, il y a une rénovation patrimoniale, une rénovation énergétique et une rénovation mixte, énergie et adaptation. Et ça peut être très intéressant pour les gens qui veulent rénover leur maison, qui ont des travaux pour isoler, c'est très intéressant. Donc,
changement de mode de chauffage, par exemple.
Voilà, ouais. On peut déjà d'emblée remercier des personnes qui acceptent d'accueillir chez tout eux des gens qui viennent visiter. Il y aura 8 personnes à chaque visite. On vous prendra sur le port et on vous emmènera en minibus dans la maison. Ça va durer à peu près 1 heure. Je crois que ça va être très intéressant. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à appeler Karen et à prendre rendez-vous.
Le programme et les contacts de cette semaine du logement sur l'île-Dieu sont à retrouver sur neptunefm.com et sur le site de la mairie, c'est mairie.ile-dieu.fr. Merci Bruno Nourry, maire de l'île-Dieu, à très bientôt.
Merci.
Merci Florence Guiton, chargée du projet, à très bientôt également.
Merci.